Bafeutré, masqué et ganté, Radio Couleur Chartreuse s'aventure sur le terrain. Une édition spéciale de 11h à 12h pour vous accompagner pendant cette période de confinement. Nos interviews sont réalisées par téléphone. Prendre rendez-vous au 06 45 00 36 45. Vous pouvez aussi enregistrer vos messages personnels sur votre téléphone portable et nous envoyer votre fichier audio à contact@radio-couleur-chartreuse.org. Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonjour à tous, chartreusins, chartreusines et bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes mercredi 10 juin et il est actuellement 11h01. C'est l'heure de votre matinale, les convives du neuf. La vôtre, oui, car du lundi au jeudi, de 11h à midi, nous vous donnons la parole. Je suis toujours accompagnée de Lucas à la technique et pas d'Élise aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va faire le tour de ce qui se passe autour de chez vous. Au programme, ce matin dans les convives du neuf, une première partie dédiée à l'information, suivie de l'interview de notre convive du jour, qui est Aurore Vincent. Elle n'est pas venue seule, et avec elle, on parlera de l'ADEC et de la culture de manière générale. Pour finir en beauté, nous avons un conseil culture du jour et le conte de Nathalie Thomas. Pour rappel, cette matinale est avant tout la vôtre. N'hésitez pas à nous envoyer vos annonces, que vous soyez commerçant, indépendant ou entrepreneur. Si vous souhaitez nous parler de l'adaptation de votre activité au contexte actuel, et de même, si vous êtes élu du territoire et que vous souhaitez passer des informations, vous êtes les bienvenus pour partager donc avec les Chartreusins les informations et les messages personnels que vous souhaitez diffuser. On est aussi preneur d'idées neuves pour un autre demain. Allez, pour ça, une adresse, c'est contact@radio-couleur-chartreuse.org et un numéro de téléphone, le 06 45 00 36 45. À présent, c'est l'heure du flash. En bref, le gouvernement veut mettre fin à l'état d'urgence sanitaire d'ici, non pour le 10 juillet. Du sang, et en veux-tu en voilà, enfin, en voilà pas, l'établissement français du sang tente de remobiliser les donneurs. C'est aussi la semaine de l'hémochromatose, l'occasion de parler de la maladie génétique la plus fréquente d'Occident selon l'INSERM. La pollution de l'air a diminué en Isère, on verra s'il faut prendre cette baisse pour acquise ou non. Et pour finir, la 4G débarque à Saint-Pierre-de-Chartreuse, réunion publique prévue ce soir. Parlons Covid, comme ça ce sera fait. Hier, le gouvernement a souhaité que l'état d'urgence sanitaire prenne fin ce 10 juillet. En parallèle, un projet de loi va être étudié en Conseil des ministres dans la journée. Un projet de loi qui doit permettre au gouvernement de restreindre de nouveau certaines libertés et activités au-delà du 10 juillet, et ce pour 4 mois en cas de retour du virus. Qu'est-ce que l'état d'urgence au juste ? C'est un état particulier qui normalement ne dure qu'un mois, et s'il est prolongé au-delà d'un mois, ça doit être déterminé par un décret. Que permet l'état d'urgence ? À savoir plus de pouvoir pour le Premier ministre, de manière générale, et des sanctions encourues en cas de non-respect des mesures prises dans le cadre de cet état d'urgence. Donc cet état d'urgence a été décidé en concertation avec un comité scientifique dont on a beaucoup entendu parler sur moult médias, radio et journaux. La pollution de l'air maintenant a diminué en Isère selon Atmo. Atmo, c'est l'observatoire de la qualité de l'air de la région. Donc la pollution de l'air due au trafic routier est donc en baisse de 50 à 70% en fonction des villes et villages de l'Isère. Donc ceci est dû au confinement de manière générale, mais cette baisse concerne donc les émissions d'azote qui sont dues donc pour 63% au trafic, mais pas tous les polluants. Donc ainsi, on remarque que la concentration d'ozone dans l'air reste inchangée dans le département qui est d'ailleurs le plus touché par cette concentration, en sachant que donc l'ozone se forme sous l'effet des rayonnements du soleil et des températures élevées, notamment en altitude, et que les épisodes de chaleur et de canicule sont de plus en plus fréquents sur tout le territoire. En ce qui concerne les particules fines, elles sont dues pour 67% à la combustion du bois de chauffage, et toujours selon Atmo. L'Observatoire constate également que la qualité de l'air tend à revenir à son état normal depuis le déconfinement, et cela à cause de la reprise des voitures. Mais le taux d'azote, lui, est toujours en baisse de 30% par rapport à l'année précédente, ce qui n'est pas si mal. Le procès du Mediator, vous savez que ce procès, c'est 6 mois de débats interrompus pendant la crise et près de 10 ans de latence, en fait, après les révélations de ce scandale sanitaire. Hier, les avocats de milliers de parties civiles, dont vous faites peut-être partie, ont commencé à plaider pour les victimes, originaires donc du sud de la France, d'Alsace ou d'Auvergne. Et donc, ces parties civiles, qui sont essentiellement des femmes, souvent âgées et issues de milieux modestes, sont très rares à avoir fait le déplacement pour le procès. Donc, je cite... Ils ont délibérément méprisé et de façon persistante les règles, les risques et les hommes dans leur recherche de profit. C'est le maître Honora qui plaidait cela hier, en écho à cette phrase de l'ancien patron du groupe Servier, qu'il avait dite en 2011, « Le Mediator, c'est trois morts ». Une information qui intéressera maintenant les passionnés de nature. Donc dans les Pyrénées, un ours a été retrouvé mort. C'est le deuxième en quelques mois dans la région. Il a donc été tué par balle en Ariège. Il s'agit d'un acte de braconnage car l'ours est une espèce protégée. L'État va porter plainte, a annoncé la ministre de la Transition écologique sur Twitter. 3 mois après la fin prématurée de la saison, une partie de l'équipe de France a rechaussé les skis hier à Val d'Isère en Savoie. Donc je cite « On ne peut mettre qu'une seule personne par chambre dans nos logements à Val d'Isère », explique Ludovic Didier qui est entraîneur de l'équipe de ski boss. Les véhicules sont également restreints au niveau de la montée vers les glaciers et le masque est obligatoire sur les remontées mécaniques, mais pas pour skier. À présent, la 4G débarque à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Donc, si cela vous intéresse, une réunion a lieu ce soir à la salle des fêtes à 18h30. Élise a donc interrogé Éric Daviaud, qui est conseiller municipal à Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Donc c'est une réunion publique qu'on a organisée pour informer, échanger avec les Chartroussins et puis Bouygues sur l'implantation des deux nouvelles antennes dans le cadre du New Deal Mobile, c'est-à-dire la couverture par les opérateurs actuels des zones mal couvertes en téléphonie mobile.
D'accord, donc en fait, c'est une demande des Chartrousses, hein, à la base.
Au départ, non, c'est une demande de l'État. C'est l'État qui a identifié en France toutes les zones non couvertes par les réseaux sans fil, et notamment 4G, ou mal couvertes, qui a demandé aux opérateurs, dans le cadre de la renégociation de leur licence en 2018, de couvrir les zones non couvertes. Surtout dans les milieux ruraux, que Saint-Pierre-Chartreuse et Saint-Pierre-Entremont étaient deux zones mal couvertes et qui ont et donc l'État a demandé aux opérateurs d'installer trois antennes, une à Saint-Pierre-Entremont et deux à Saint-Pierre-Chartreuse pour couvrir ces deux vallées.
Et donc du coup c'est acté, c'est Bouygues qui est responsable entre guillemets du projet.
Voilà, c'est Bouygues qui est responsable du projet parce que dans le cadre de renégociation des licences, ils ont découpé des zones blanches en 4 parties et ils ont attribué un opérateur qui doit installer les antennes au titre des 3 autres opérateurs. Ils mutualiseront l'infrastructure mise en place. Sera mutualisé par les 4 opérateurs. Donc sur notre territoire, c'est Bouygues, mais sur d'autres territoires, ça peut être Free, ou ça peut être Orange, ou SFR.
Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en amont sur cette adresse mail, eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr, tout attaché. Donc le public sera bien évidemment limité aux 30 premiers arrivants, donc si vraiment vous êtes intéressé, vous avez plutôt intérêt à vous pointer à 17h30. Parlons du don de sang, évidemment, donc c'est l'information quotidienne. Comme c'est la semaine de l'hémochromatie, c'est l'occasion d'en parler. Donc c'est une maladie génétique qui est la plus fréquente en Occident. Elle est caractérisée par une hyperabsorption intestinale de fer. Donc l'hémochromatose entraîne des dépôts de fer dans l'organisme qui détruisent peu à peu les organes. Donc on estime qu'une personne sur 300 est porteuse de la principale anomalie génétique qui prédispose à l'apparition de cette pathologie. Les hommes étant 3 fois plus touchés que les femmes. Et Cécile Ardilous, qui est directrice adjointe de la communication à l'EFS Auvergne-Rhône-Alpes, nous explique un peu plus en détail cette maladie.
En fait, on fait ce qu'on appelle des saignées, c'est-à-dire que, comme pour un don de sang, mais on n'utilise pas forcément le sang qui est prélevé. Donc ces personnes-là vont dans des centres de soins, hein, ce n'est pas forcément l'EFS qui va les prendre en charge. Et en fait, on va leur retirer une quantité de sang bien précise par rapport à une prescription médicale de leur médecin traitant pour pouvoir enlever ce surplus de fer qu'ils ont dans le sang. Au contraire, nous, on va traiter justement par transfusion des personnes qui peuvent être en anémie de fer, anémie très sévère.
C'est l'occasion de rappeler que donc, les stocks de sang sont très très bas en ce moment, hein. 85 000 poches quand il en faudrait 100 000. Les dons continuent avec des mesures sanitaires adaptées, donc une prise de rendez-vous est nécessaire, hein, sur le site resadon.fr ou par téléphone 04 78 65 63 63. La transition est donc toute trouvée, on vous retrouve tout de suite après le titre de Cléa Vincent, du sang sur les congas, de quoi ramener un peu de soleil dans vos oreilles. Congas.
On veut du sang sur les congas. On veut du monde sur la piste. On veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie. Nous retrouvons la vague de douceur. Écrivons le avec le cœur. Sur les congas, on veut du monde sur la piste, on veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie, on veut du feu sur le secteur, chercher le soleil intérieur, on veut repartir de plus belle avec du rhum dans nos cocktails et maracas. Sur les congas, on veut du monde sur la piste, on veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie, on veut du feu sur le secteur, chercher le soleil intérieur, on veut repartir de plus belle avec du rhum dans nos cocktails des maracas.
Pas grand-trée est arrivé.
Étant collégienne, je vais me faire plaisir avec 56 euros de réduction grâce aux 7 passes de mon pack loisir.
Les parents aussi pourront se réjouir avec le pack resto si l'enfant est collégien d'un établissement public. Et le pack transport de la maternelle au lycée si l'enfant répond aux critères d'éligibilité. Transport, loisirs, restauration, préparez dès maintenant la rentrée scolaire de votre enfant. Inscription avant le 15 juillet sur www.isère.fr, rubrique pack rentrée. Le pack rentrée, un dispositif jeunesse du département de l'Isère.
J'ai mis trop de cheveux.
C'était Du sang sur les congas de Cléa Vincent, vous êtes sur Radio Couleur Chartreuse, nous sommes le 10 juin et à 11h c'est l'heure des convives du 9. Ce matin nous accueillons Aurore Vincent et Alexia. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter parce que vous avez tellement de casquettes que je ne saurais pas exactement comment vous définir.
Bien sûr, alors moi c'est Alexia Poirot, je suis directrice du centre de loisirs à l'ADEC. À Saint-Pierre-d'Entremont, je gère aussi le pôle adolescent, donc sur tout ce qui est les mercredis pour les enfants de 3 à 12 ans pour le centre de loisirs, les vacances scolaires et les samedis avec les ados donc de 12 à 17 ans environ.
D'accord, et vous Aurore ?
Bonjour, je suis Aurore Vincent, je suis artiste chorégraphique et du coup je suis là parce que, par rapport au stage qu'on va organiser en lien avec l'ADEC pour les ados.
D'accord, alors est-ce que vous pouvez nous présenter l'ADEC du coup ?
Oui, alors l'ADEC c'est l'association d'animation pour le développement des Entremonts en Chartreuse. C'est une association, enfin du coup on a des locaux, donc à Saint-Pierre-d'Entremont, et on est tourné autour donc des jeunes, de la petite enfance, de la culture et on a aussi un cinéma où on fait des projections, qui fait aussi salle de spectacle où on a des artistes qui viennent se produire. On organise aussi des événements, des gros événements comme là sûrement au mois d'août, il y aura la fête des paysans artisans. Au mois de janvier, on a fait... j'ai perdu le mot.
Festival Éco.
Oui, le Festival Éco. Enfin, voilà, on est tourné beaucoup autour de la culture et de l'événementiel.
Vous avez énormément de casquettes, en fait. Ça correspond beaucoup à votre activité, j'ai l'impression. Aurore, il me semble que vous êtes donc professeur de yoga. Vous avez aussi créé un spectacle qui s'appelle L'Inconnu.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites d'autre?
Alors, je donne des cours de yoga et de danse. Du coup, ça découle de ma formation d'interprète, quelque part. Voilà, le solo, il a commencé en 2019. J'ai eu plusieurs résidences en Suisse. Et du coup, j'ai pu le présenter à la salle Notre-Dame, du coup, à Saint-Pierre-en-Tremont, qui est gérée par l'ADEC, avec un autre artiste qui s'appelle Florian Berger, qui est autrichien, et qui a présenté également son solo qui s'appelait Don Quichotte. Et le stage, du coup, découle un peu de cette recherche-là. On a pris le lien commun qu'il y avait entre nos deux solos.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce stage?
Oui, donc c'est un stage qui sera sur... on l'a appelé l'art du malentendu, qui sera donc sur le détournement d'objets. Donc on est parti de nous-mêmes, l'utilisation qu'on faisait des objets dans nos solos respectifs. Donc lui avec un balai, il avait une table, il avait un rouleau à pâtisserie. Et moi j'avais essentiellement une lampe qu'on pose au sol. Et donc à partir de là, comment on peut détourner cet objet de son utilisation quotidienne. Donc une lampe c'est fait pour allumer, mais est-ce qu'on peut pas le transformer en une personne par exemple? Est-ce qu'un balai peut pas devenir une arme? Est-ce que... Voilà, plein de choses.
Et ça s'adresse à quel genre de public? Quel âge ou...
Alors nous, on a plutôt visé les ados, donc on s'était dit 12 ans et plus. C'est vrai qu'avec la situation actuelle, on n'a pas beaucoup de place, mais du coup, c'est quelque chose qui pourrait s'étendre même aux adultes. C'est pas du tout... C'est pas... Même avec les enfants, on pourrait le faire. Je pense qu'on peut le faire à tout âge, mais c'est vrai que pour ce stage-là, on a commencé par les ados.
D'accord. Voilà. Comment vous vous êtes formée? C'est quoi votre parcours exactement?
Moi, j'ai commencé la danse à Saint-Pierre, justement, parce que quand j'étais petite, il y avait des cours de danse. Et puis après, j'étais en option danse au lycée du Granier. En même temps, j'étais au conservatoire à Chambéry. Après, j'étais stagiaire au sein d'une compagnie à Lyon. Puis après, je suis, pareil, allée en compagnie à Lausanne, en Suisse. Et tout ça a fait quelques années. Et puis après, j'ai commencé à être en freelance, en fait.
D'accord.
Donc, j'ai partagé mon temps entre la Suisse, la Belgique et la France, essentiellement, ces dernières années.
Vous vivez de vos passions, en fait.
J'essaye, en tout cas, ouais.
Vous essayez. C'est quand même fantastique, non?
C'est super, ouais. C'est difficile, de temps en temps, mais ça vaut le coup. Ouais,
d'accord. Vraiment. Donc, c'est important pour vous qu'il y ait ce genre d'association comme l'ADEC?
Oui, c'est important. Ça fait le lien avec la communauté. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup en français, mais parce que des fois, l'artistique est un peu séparé. On a un temps différent et puis une vision du monde différent aussi, des autres, entre guillemets. Et puis, mais on a besoin de ce soutien-là et puis que ça nous amène du public, que nous, on leur amène autre chose. Et...
C'est complémentaire. Ouais. Alexia, c'est ce que vous sentez aussi?
Ah, totalement. Enfin, moi, je sais que c'est pour ça aussi que j'ai voulu travailler à l'ADEC, pour ce côté ouvert, culturel. Enfin, on fait vraiment énormément de choses et j'apprends plein de choses tous les jours. Enfin, voilà, que ce soit humainement ou même juste au travail. On rencontre énormément de personnes et je trouve ça bien qu'on ait les possibilités de mettre tout ça en place, en fait.
Et comment vous en êtes... Ah, pardon, excuse-moi.
Je voulais juste dire que c'était surtout important en zone rurale parce qu'il y a vraiment... Nous, on a de la chance à Saint-Pierre parce qu'on a un théâtre et un cinéma, mais il faut rappeler qu'il doit y avoir 1000, 1500 habitants à trois communes. C'est exceptionnel pour la France, en fait. Et je pense que ce genre d'association, justement, qui a plusieurs casquettes, est vraiment importante parce que les grandes scènes nationales, elles sont dans des grandes villes où il y a déjà une offre assez importante ou qui est déjà bien installée. Et du coup, dans les zones excentrées, c'est vraiment important d'avoir des petites associations comme ça qui font beaucoup.
Ouais, exactement. Et du coup, Alexia, comment vous en êtes arrivée à travailler ici pour l'ADEC?
C'est parce qu'en fait, j'ai répondu à une annonce. Ils cherchaient pour octobre 2019 une nouvelle directrice animatrice pour l'accueil de loisirs. Et du coup, bah, j'ai postulé et je connaissais un peu parce que j'avais déjà aidé à des... Enfin, j'étais déjà venue voir des événements. J'avais une amie aussi qui avait déjà travaillé à l'ADEC, qui était proche de l'ADEC. Donc, en fait, de fil en aiguille, j'ai discuté avec bah, Jennifer Murphy, la directrice. J'ai passé l'entretien et du coup,
D'accord.
j'ai été prise.
Vous avez travaillé dans d'autres endroits avant ?
Oui, je suis originaire de Dijon, donc j'ai commencé à Dijon. Après, j'ai travaillé à Thonon-les-Bains. Après, je suis partie en Australie et après, je suis arrivée ici.
Super, voilà. L'Australie, ça vous a appris quoi ?
Franchement, il faudrait 10 ans pour raconter. Non, ça m'a appris l'humain. Voilà, vraiment, humainement, j'ai appris énormément humainement sur tout ce qui, aussi sur les... Ouais, vraiment, non, j'ai appris de moi-même et des gens.
D'accord, et passer donc de l'Australie à Saint-Pierre... Enfin, qu'est-ce que ça fait ? C'est quand même le jour et la nuit, non ?
Ah oui, bah, puis surtout que je ne connaissais pas du tout cette région. Ici, je suis arrivée par hasard, puisque pareil, j'ai postulé à une offre pour travailler au périscolaire ici, à l'école. Mm-hmm. Et moi, ce qu'on disait avec Aurore, moi, quand je suis arrivée, j'ai dit non, c'est pas possible. Et clairement, c'est pas possible. Et mon conjoint a eu un coup de cœur pour la chartreuse. Oui. Et il m'a dit non, mais tu réussis l'entretien et on reste. Et ça fait un an et plus d'un an. Et voilà, on est
et
là.
Finalement.
Et je regrette pas. Et j'espère qu'on va continuer à rester dans le coin et développer d'autres projets avec l'ADEC. Et voilà.
D'accord. L'ADEC, j'ai vu que sur votre site internet que c'était 80 bénévoles et vous ajoutez entre parenthèses de manière assez drôle 5% de la population, pas mal non. Est-ce que les gens sont très engagés dans la région ?
Dans la région, je pourrais pas vous dire. Je sais que à Saint-Pierre-d'Entremont, on a quand même, on va dire, tous les habitants pratiquement qui sont adhérents.
Ouais.
Donc c'est énorme et c'est bien parce que du coup on aide énormément de personnes, même pour, comme disait Aurore, le fait qu'on ait un cinéma, une salle,
c'est assez exceptionnel, c'est
clairement. En plus ça permet aux gens, aux personnes de Saint-Pierre-d'Entremont d'avoir accès à de la culture que c'est pas facile de nos jours d'avoir accès à de la culture, surtout dans des bien petits sûr. villages. Et je trouve ça énorme ce qu'on fait et que les gens participent. Je sais que quand on fait des gros événements, on a énormément de bénévoles qui viennent nous aider et qui sont avec nous parce qu'ils aiment ça et on les fait participer autant qu'ils veulent et autant qu'ils peuvent. Et
le bénévolat, c'est pas quelque chose qui est très ancré dans la culture française. Quand on regarde dans d'autres pays, en Angleterre ou aux États-Unis, le bénévolat, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très répandu. En France, on a l'impression que c'est pas un automatisme. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je saurais pas. Sais pas. Je pense que ça dépend du contexte. Après, peut-être le contexte culturel est différent. Quand j'ai culturel, c'est pas au niveau art. Tout ça. Est un peu différent aux États-Unis ou en Angleterre, par exemple. C'est surtout lié peut-être aussi à des communautés religieuses où ils font Peut-être en France, il y a moins ce... Et à la fois, quand on voit comment Emmaüs fonctionne, des choses comme ça, la Croix-Rouge, je pense qu'on en parle peut-être moins, oui. Mais je pense qu'il
y a quand même.
Oui, le tissu associatif français est quand même très fort. Et que sans les associations, clairement, il n'y aurait pas grand-chose qui se ferait en France.
Du coup, en ce moment, on a beaucoup parlé des métiers utiles à la nation ou nécessaires à la nation. La culture dans tout ça, est-ce que la culture est nécessaire ? En quoi elle est nécessaire ? Pourquoi on en a besoin ?
Alors moi, personnellement, je pense que oui, elle est nécessaire. Et c'est ce qui fait aussi notre pays. Enfin, et les pays, parce que, enfin, je suis désolée, la France, la culture, c'est la bonne bouffe. Il y a plein. Moi, je trouve qu'on est un pays vachement ouvert là-dessus et qu'il y a plein de choses autour de la culture. Et pour moi, déjà, autant, enfin, que ce soit déjà pour les enfants ou pour les adultes, je sais que pour moi, c'est important et c'est ce que je mets en place depuis que je travaille dans l'animation, l'ouverture à la culture pour les enfants, pour essayer déjà, dès le plus jeune âge, de leur montrer tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qui est possible autour de la culture. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que je suis contente d'être en France pour la culture qu'on a... ouverte sur plein de choses.
Aurore, qu'est-ce que vous en pensez ? Les gens ont peu de temps et peu d'argent à consacrer à la culture quand on regarde.
Je trouve que c'est bien dommage. En vrai, je pense que c'est pas les. Je pense qu'au niveau gouvernemental, il y a quelque chose à faire. Mais on n'est pas là pour parler politique. Donc voilà. Mais non, c'est pas moi qui vais dire l'inverse, forcément. Ça serait un peu bête. Je pense que dans l'état actuel de la société, humainement, c'est très important. Ça permet de vraiment intégrer tout le monde dans une, pas une culture commune justement, mais d'accueillir la diversité de chacun, parce qu'au final, on a beau être, je sais pas, allemand de Allemagne, français de France, enfin, ça veut pas grand chose, dire grand chose. En vrai, ça a tellement bougé les populations depuis des siècles que en vrai, chacun a sa propre culture, comme chacun a sa propre religion, je pense. Et du coup, d'avoir des pratiques artistiques ou culturelles qui permettent de se rejoindre avec un langage commun, c'est hyper important. Mm-hmm. Et ça s'enrichit, ça se développe, ça permet de faire évoluer la société, l'individu.
Et vous, quand vous faites des spectacles, quand vous donnez des cours de danse, des cours de yoga, est-ce que vous vous sentez utile ? J'imagine que oui, quand même. Qu'est-ce que vous apportez aux gens ?
Oui, moi, je pense que quand j'ai fini ma journée de travail et que je suis fatiguée, plus ou moins, je... fatiguée certainement plus corporellement que psychologiquement, ça dépend des jours, mais je suis contente. Je pense que pour moi, j'ai fait un truc utile. Je trouve, même quand on donne un cours, ça peut être un cours de boxe, ça peut être un cours de danse, ça peut être un cours de je sais pas quoi. Vraiment, les valeurs qu'on véhicule de savoir-être et de savoir-vivre sont hyper importantes. Ça va avec. Et du coup, pour ceux pour qui c'est un peu plus difficile ou qui c'est un peu plus une inconnue, du coup, ben, ça fait peut-être passer la pilule un peu mieux aussi, je sais pas. Mais non, je trouve que c'est bien, ça permet d'échanger. Voilà,
Vous sentez que ça fait du bien aux gens ?
Je pense que oui, les gens ont besoin que la soupape de sécurité, elle évacue un peu toute la fumée qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en vrai, même regarder un film, ça broie un peu le cerveau. Regarder un film sur Netflix, par exemple. Donc on dort parce qu'on n'a plus la force de réfléchir. Mais en vrai, il n'y a rien de mieux que de bouger avec son corps, que de produire quelque chose qu'on a fait soi. La preuve, pendant le confinement, tout le monde voulait faire des gâteaux. Bon oui, les gâteaux, ça réchauffe le cœur. Mais en vrai, c'est parce que le premier truc qu'on dit, c'est « Regarde, j'ai fait un gâteau. » Du coup, on est content d'avoir créé quelque chose, produit quelque chose. Et on n'a pas besoin d'avoir une affiche... je sais pas, à Broadway, pour être content de l'avoir fait, quoi. C'est ça qui est important.
Mais vous disiez que donc c'est quelque chose que le gouvernement doit impulser, et c'est vrai, d'ailleurs, ils ont tout intérêt, économiquement parlant, parce que la culture, il me semble que la culture, du coup, génère 7 fois les revenus de l'industrie automobile. 7 fois plus intéressant économiquement que l'industrie automobile. C'est fou. Parce que pourtant, la culture, tout le monde est en peine dans le monde de la culture actuellement.
Oui, bah après, je connais pas exactement les chiffres, mais c'est vrai que c'est un point important, et qu'en fait, quand on dit culture, généralement, chacun a sa petite définition. C'est soit la façon dont on vit, nos petits rituels quotidiens, soit l'héritage culturel qu'on a reçu. Donc, par exemple, en Europe, c'est plutôt judéo-chrétien. Ou alors la langue, alors qu'en vrai, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a les arts, il y a le patrimoine, il y a la langue, il y a la nourriture, il y a... C'est, la culture, c'est
très vaste.
C'est tout, en fait. C'est la base même de la société.
Et est-ce que vous pensez, je pense particulièrement à vous, Alexia, est-ce que vous pensez qu'il faut faire venir la culture dans les petits territoires enclavés, ou est-ce que la culture existe déjà sur place et qu'il faut juste lui donner un peu de visibilité et de moyens d'expression ?
Moi, je pense que tout le monde devrait avoir accès à la culture. Et encore plus ceux qui sont dans des petits villages, parce que dans les grandes villes, il y a des théâtres, il y a des cinémas, il y a des conservatoires, il y a plein de choses. Mmh. Et c'est vrai que ceux qui sont un peu dans des petites villes ou loin de tout, ils n'ont pas forcément accès à la culture, où il faut prendre la voiture, il faut se déplacer, il faut faire de la route. Et je trouve ça dommage parce que c'est tellement... intéressant, et il y a tellement de belles choses à voir que je pense qu'il faudrait que tout le monde y ait accès, et qu'il y en ait partout, en fait, concrètement. Après, voilà, moi, je viens, ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je viens de grande ville de Dijon, c'est assez grand. Donc, moi, j'ai toujours eu ce côté culturel, j'ai toujours eu accès à la culture, les musées, les spectacles, j'ai toujours bougé pas mal. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, quand je suis arrivée à Saint-Pierre-d'Entremont et j'ai vu tout ce qu'il y avait... pour la culture, justement, je me suis dit, mais ça serait bien que tous les petites villes, les petits villages de France aient pas forcément une salle de théâtre, un cinéma, mais au moins un lieu culturel où les gens peuvent s'extérioriser, s'exprimer, juste même une salle où pour par exemple pour décorer les murs, faire du yoga, de la danse. Mm-hmm. Bah, je trouve ça super important et les gens en plus, enfin quand on est dans la culture, on découvre du monde, ça permet de se rassembler, ça permet de découvrir des nouvelles choses et je pense que dans certains endroits ça manque.
Mm-hmm.
Que exactement. C'est que dans les grands, enfin vraiment prioritairement dans les grandes villes et je trouve ça dommage parce que pour les gens qui habitent pas dans les grandes villes, bah il y en a qui ont pas accès à la culture.
Mm-hmm.
Et moi notamment pour les enfants parce que moi je travaille avec, donc je vois que certains enfants sont, enfin pour eux on leur dit c'est quoi la culture,
bah ils sont bien en peine. Oui,
c'est ça. Donc et c'est pour ça que j'essaye de leur apporter un maximum de choses culturelles pour qu'ils découvrent ça, comme ça plus grands ils seront peut-être épanouis et ils auront envie de faire des choses.
C'est important aussi que du coup tout se retrouve, par exemple l'ADEC regroupe en fait tout ça et crée de la cohésion, ce qui fait que c'est quand même peut-être plus simple et plus facile à aborder.
C'est ça.
Je rebondis sur vos stages de théâtre. C'est la première fois que vous faites des stages de théâtre ou...
Alors nous on s'est placé dans... J'ai mis dans le petit texte, parce que j'ai dû l'écrire, à la frontière du théâtre, de la danse et du cirque, pour la simple et bonne raison que, pour le cas de Florian, il est danseur, mais il fait aussi du cirque et un petit peu de théâtre, mais plus tiré vers le clown. C'est quelque chose qui l'intéresse. Quand je dis clown, c'est clown contemporain. Donc on n'est pas du tout dans Bozo le clown.
Ouais, bah ouais.
Non, je préfère préciser. Donc c'est du théâtre physique, on va dire, voilà.
Mm-hmm.
Moi j'ai fait du théâtre à Saint-Pierre du coup avec Christophe Herouet qui est le programmateur et directeur de la salle de Notre-Dame.
Mm-hmm.
Et quoi d'autre, et oui, et du coup on s'est mis là-dedans parce que donc je pense que ça se tirera plus vers théâtre physique et puis on va essayer d'intégrer un peu moi du cirque j'en ai pas fait beaucoup et puis c'était plus pour m'amuser, j'ai jamais creusé vraiment plus que ça. Voilà, mais on a de quoi offrir en termes de mouvement, voilà, pour deux, trois... Voilà, comment utiliser l'espace, comment donner du rythme. Et puis, l'objet apporte vraiment beaucoup de choses, parce qu'en soi, il a déjà une histoire. Ouais. C'est quelque chose qui appartient à la personne. Il l'a choisi pour une raison, et c'est peut-être pas pour cette raison-là qu'il l'a choisi, et peut-être qu'il va le découvrir à ce moment-là.
Ouais, il y a plusieurs interprétations possibles.
Exactement. Ouais, des fois, on choisit un truc, on dit oh, « bah, je m'en fous, je prends un stylo ». Puis après, deux jours, on se dit « en fait, j'ai pris le stylo parce que j'aimais bien écrire, parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert quand j'avais 6 ans ». Enfin, je dis n'importe quoi, mais...
Ouais.
Voilà, et justement, il peut représenter la grand-mère dans cette histoire un peu faite là comme ça, mais... Donc voilà, je pense que ça ouvre beaucoup de possibles, en fait. C'était vraiment l'essentiel, que plusieurs personnes puissent se retrouver et que ça soit pas uniquement « Ah bah, j'ai jamais fait de danse, donc ou je suis un garçon, le cliché total. Je suis un garçon et je fais pas de danse, voilà. » C'est bien aussi qu'on soit deux, qu'il y ait un garçon et une fille, parce que si on met danse, théâtre, cirque et que c'est un peu plus danse et que les garçons, ils vont se sentir genre « Je vais me cacher dans les toilettes.
»
Voilà, les clichés ont un peu la vie dure, donc c'est un peu difficile. Donc c'est bien d'aller doucement, puis de...
Ouais,
voilà, d'essayer. En vrai, c'est un vrai test parce que à Saint-Pierre, j'ai jamais donné de stage. Voilà, c'est un peu chez moi, mais j'ai jamais fait. Donc, ça va être une découverte. Puis il y a aussi un petit échange culturel. Bon, l'Autriche, c'est pas très loin, mais voilà, ils parlent pas français couramment, donc ça va être sympa. Donc,
ouais.
Peut-être on fera une demi-journée en anglais, je sais pas.
Voilà.
Je ferai la traduction. Voilà.
Super. Ouais. Bon, ça fait des bonnes nouvelles et des bonnes initiatives. Est-ce que l'ADEC a des choses de prévues ou des choses à annoncer? Est-ce que vous avez des...
Non, bah parce que là, on reprend doucement avec tout ce qui s'est passé, tout ça. Hein. On viendrait ouvrir officiellement là cette semaine, donc le temps que tout se mette en place. Bah, au mois d'août, logiquement, on aura la fête des paysans artisans.
Mm-hmm.
Je crois que c'est le 23, c'est un dimanche. Et sinon, bah, cet été, on va essayer de mettre en place des choses avec les ados.
Est-ce que vous aurez des camps, des colos?
Non. Donc, le centre de loisirs sera ouvert au mois de juillet.
Ouais.
Et ma collègue Nour, qui s'occupe des ados avec moi, va sûrement faire des choses les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines d'août.
D'accord.
Logiquement, le 16 et 17 juillet, les ados pourront partir une nuit en bivouac.
Oh, super.
Avec les jeunes au sommet. Donc ça, pareil, j'ai eu l'information hier, donc le
d'accord,
temps qu'on se
calme.
D'accord,
c'est petit à petit. Quoi.
C'est ça. Donc là, on avance doucement pour cet été, parce que la fête des paysans artisans va nous prendre énormément de temps.
Ouais.
Et, et avec toutes les normes sanitaires, tout ça, il faut que ça soit bien fait et carré. Mmh. Donc voilà, on avance doucement pour l'instant, et en septembre, on verra si tout ça, c'est fini.
Ouais, de toute façon, il n'y a pas de plan sur la comète.
C'est ça. Là, c'est, on avance jour après jour.
D'accord. Eh bien, je vous remercie de vous être déplacé pour venir dans le studio.
Merci.
Et, merci Aurore et merci Alexia. On va se quitter sur un titre du groupe de rock espagnol Jarabe de Palo, dont le chanteur Pau Donés est décédé hier à 53 ans, et le titre c'est Eso que tú me das.
Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
C'était Eso que tú me das, vous êtes sur Radio Couleur Chartreuse, c'est l'heure des convives du neuf et nous étions tout à l'heure en direct avec Aurore Vincent et Alexia qui sont venus nous parler donc de l'ADEC à Saint-Pierre-d'Entremont et d'un stage de théâtre qui est prévu donc dans les prochains mois. Donc il est 11h39 et nous allons passer aux informations locales. Donc le festival des nuits d'été a été annulé, donc c'est une décision qui n'est pas sans conséquence hein, pour les nombreux artistes qui devraient y participer. Pour Isabelle Abridurand, la période du déconfinement a été particulièrement appréhendée car imprévisible et finalement très peu claire.
Et on a dû prendre une décision plutôt que les décisions sans attendre les décisions du gouvernement s'agissant du déconfinement. Voilà. Parce qu'on était dans une situation où il fallait faire partir la communication. Et une fois examiné les prévisions qu'on pouvait faire sur la manière dont allait se passer l'été, étant donné notre modèle économique qui nous impose de faire au moins 80% de remplissage au total pour tout le festival, ça nous semblait pas raisonnable de maintenir le festival même partiellement. Hein, parce qu'on pouvait on peut prévoir assez facilement que on n'aurait pas la possibilité de faire des jauges entières, que très probablement ils n'autoriseraient pas, même s'ils autorisaient des rassemblements de 50 personnes, ils n'autoriseraient pas de remplir une salle en mettant des gens les uns à côté des autres. Et donc on a dû prendre la décision, même si elle a été officialisée très récemment, on l'a pris déjà il y a un mois. Enfin, voilà, on a attendu le plus possible. Il fallait qu'on donne une réponse aux artistes, en plus on était pressés par les artistes de Nice. Ils voulaient savoir évidemment si le festival allait se faire ou pas. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas dans quelles conditions on pourra les rémunérer. Et tout le monde était dans cette situation où il fallait... on attendait qu'on nous dise quoi faire, et finalement on a dû prendre la décision seul, quoi. Voilà. Vu l'État avait choisi, c'est pas une critique hein, d'ailleurs, mais l'État avait choisi de faire le déconfinement en plusieurs étapes, donc à chaque étape on ne savait pas ce qui allait se passer à la suivante, et on ne pouvait pas attendre davantage. Mais on ne regrette pas notre décision. On ne regrette pas notre décision parce que très probablement... les concerts du mois de juillet comme du mois d'août ne pourront pas se dérouler comme ils auraient pu se dérouler. Quoi.
Ce qui n'empêche pas les artistes de se retrouver pour continuer à créer. Et comme il le dit, ils vont de l'avant et préparent d'ores et déjà le prochain festival. Par ailleurs, la route pour Saint-Pierre-de-Chartreuse est coupée cette semaine au niveau du tunnel de Fourvoirie. Donc elle est coupée entre 21h et 6h du matin. Et c'est Eric Davio, qui est conseiller municipal à Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui nous explique le pourquoi.
Donc les travaux qui auront lieu au tunnel de Fourvoirie, c'est pour refaire l'éclairage, qui est vraiment en mauvais état. Donc le département de l'Isère a prévu de refaire tout l'éclairage du tunnel. Et pour ça, ils vont travailler de nuit. Voilà. Entre 21h et 6h du matin, je crois. Voilà. Pendant 3 voire 4 jours.
Je ne sais combien d'entre nous se sont posé la question du pourquoi cette route était fermée, et c'est non sans une pointe de malice que nous vous avons cherché la réponse. À présent, dernière petite information, nous est venue d'Élise d'ailleurs, grâce à elle. Donc, on connaissait le seuil de pauvreté, et voici venu le temps du seuil de richesse. Hier, l'Observatoire des inégalités a publié un rapport qui définit ce seuil comme étant donc le double du revenu médian. Donc un raisonnement mené par analogie avec le seuil de pauvreté qui est mesuré par un revenu inférieur à la moitié du niveau de vie médian. La conclusion, 5,1 millions de personnes sont considérées comme riches en France, c'est-à-dire 8,2% de la population. Le revenu médian étant en France de 1 735 euros, un chiffre de 2017, en sachant qu'une personne seule serait riche à partir d'un revenu de 3 470 euros par mois. En Isère, le salaire moyen est de 1 800 euros, en sachant donc que la moyenne est toujours un peu plus élevée que la médiane. Je complète en vous informant que la fameuse foire du 15 juin aura bien lieu à Entremont-le-Vieux. Donc la commune a reçu l'autorisation de la préfecture sous réserve du strict respect des gestes barrières. Donc tout y sera, hein, vêtements, babioles, fouf et autres repas à emporter ou sempiternel saucisson, tout sauf les buvettes. Et oui, mais triste foire non, car foire quand même. Vous vous consolerez en trinquant avec une pinte de convivialité, n'est-ce pas ? Rendez-vous donc le 15 à 8h, de 8h à 13h, n'oubliez pas votre masque. Et on va vous passer un morceau de Lil Wanta qui est Mashrou Leila. Thank you.
نطير وبنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طلبت بتغيير الوطن يأسوك حتى تبيع حريتك لما يضيع الوطن قالوا لك حاجة تبشر
C'était Mashrou Leila, la dédicace de Nathalie Thomas, qui est à présent avec nous. Nathalie, vous êtes là ?
Oui, je suis là. Bonjour.
Bonjour Nathalie, vous pouvez nous parler de votre dédicace ?
Alors Mashrou Leila, c'est un groupe, alors je ne suis pas allée vérifier depuis tout à l'heure, mais il me semble que c'est un groupe qui vient du Liban, de Beyrouth exactement. C'est un groupe de jeunes artistes qui ont eu le courage d'afficher, en tout cas de parler de leur homosexualité.
Mmh.
Et dans le monde en général et en particulier dans certains pays, ça peut coûter très cher. Et voilà, c'est un groupe talentueux et engagé qui a un immense succès dans le monde en fait. Et je sais pas s'il est très connu en France, mais en tout cas
un petit peu, ouais.
Voilà. Et leur musique est inspirée, voilà, je trouve qu'on, même si on ne comprend pas forcément les paroles, on sent une énergie extraordinaire dans cette musique-là, dans ces paroles-là.
Mm-hmm. Très
voilà.
Bien. Eh bien, écoutez, merci, du coup, on a bien profité de votre dédicace. Est-ce que maintenant, on pourrait profiter du conte ?
Alors, oui. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de vous en parler, mais Raymond est très attaché aux ânes et aux siens en particulier. Évidemment, il a toujours eu des ânes et c'est un animal avec qui il a une relation très, très particulière, très, très affective. Et un jour, évidemment, comme ça peut arriver à tout un chacun, quand il est venu chercher son âne dans le pré, il l'a pas trouvé. L'âne avait disparu. Et donc, Raymond a passé toute la journée à chercher son âne. Et toute la journée, les gens qui l'ont croisé l'ont trouvé plutôt détendu, plutôt souriant, pas du tout aussi inquiet que ce qu'il aurait pu être. Et en fin de journée, Il s'apprête à rentrer chez lui sans avoir trouvé son âne. Il croise son voisin et son voisin lui dit « Mais enfin, Raymond, on comprend pas. Depuis ce matin, tu cherches ton âne. T'as toujours le sourire. Tu as l'air complètement détendu. » Et Raymond lui dit « Bah oui, parce que regarde, tu vois l'arbre là-bas. » Il lui désigne un arbre au bord de la route. Il dit « Je n'ai encore pas regardé si mon âne était derrière ou non. S'il ne s'y trouve pas, alors vous allez commencer à m'entendre à pleurer et à me désespérer. » Voilà.
Oh, mais c'est presque triste.
Ben, je sais pas, parce que l'histoire ne dit pas que l'âne n'était pas derrière
non, oui,
le dernier arbre.
Exact. Hein? Moi, je m'imaginais qu'il n'y était déjà plus, mais en fait, non, on ne sait pas.
Il y en a une que je n'ai pas postée sur YouTube, qui raconte aussi qu'un jour, Raymond est arrivé donc au marché le jeudi et il était complètement désespéré quand ses amis l'ont vu dans cet état-là et lui ont demandé qu'est-ce qui lui arrivait. Et lui, il a dit, ben, vous n'êtes pas au courant, c'est ma femme qui est morte. Oh. Et ses amis lui ont dit, mais non, c'est pas possible, Raymond, ta femme, elle est en train de boire le café avec ses copines au bar, elle est en pleine forme. Et là, il s'est dit, oui, c'est vrai, faut que je m'y fasse, c'est mon âne.
Oh non.
Voilà, désolée, mais celle-ci, je l'avais pas mise sur YouTube.
Non, mais celle-ci est pas mal non plus, c'est...
Voilà.
Et ben écoutez, merci beaucoup, Nathalie.
De rien, Madeleine, merci. C'était deux pour le prix d'une aujourd'hui.
Oh, super, mais qu'est-ce qu'on est chanceux. Merci, Nathalie.
Merci. À bientôt.
Et nous allons enchaîner du coup avec le Conseil Culture du jour. Conseil Culture qui nous vient d'une association très très locale.
Alors c'est pas bien correct parce que je me présente avant la dame, mais je suis le président de l'association Pic Livre à Saint-Pierre-Chartreuse qui fonctionne avec la bibliothèque de Saint-Pierre.
Alors Marc-Christine Perroux, je suis adhérente à Pic Livre, enfin plusieurs associations sur Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Pierre-Chartreuse, enfin voilà.
Alors Pic Livre... En gros, c'est une assoce de Saint-Pierre qui travaille avec la bibliothèque, c'est-à-dire qu'on donne des coups de main à la bibliothécaire dans le fonctionnement de la bibliothèque, qu'on lui aide à choisir des livres quand elle renouvelle. À côté de ça, on organise aussi des spectacles sur Saint-Pierre, en corrélation avec la MC2 de Grenoble, ou des spectacles qu'on choisit nous-mêmes. On fait aussi je dis certaines parce que c'est surtout des dames, cette assoce. Je suis le président, mais je dois être le seul homme de l'assoce. Donc, il y a aussi des lectures à l'école pour les petits. La dernière nouveauté, ça, c'est Christine qui vous en parlera, c'est l'attrape-mot. Donc là, je lui laisse la parole, elle saura mieux dire que moi.
L'attrape-mot, c'est à l'initiative de quelques filles qui sont déjà un peu dans le domaine de l'écriture. Donc, c'est un atelier d'écriture. Donc, on a lancé ça l'année dernière, au mois d'avril, si je me souviens bien, avec pour but de permettre à des gens d'écrire et absolument sans aucun jugement et une écriture libre, quoi. Voilà. Que tout le monde se sente capable d'écrire. C'est pas un atelier sélectif où on apprend à faire un roman. Non, c'est un atelier qui a lieu une fois par mois, le jeudi, de 18h30 à 21h. Et donc, on se retrouve à peu près une quinzaine de personnes dans des lieux complètement différents. On change de lieu tout le temps. Et donc, parmi les filles qui organisent cet atelier, on a des formations d'animation en écriture. Et donc, chacune de nos tours, on anime un atelier sur différents thèmes qu'on choisit ensemble ou dont on a envie de parler. Voilà.
Je vais en profiter quand même, pardon, pour dire que la bibliothèque est réouverte, je pense, comme dans tout le secteur. Mais les gens doivent choisir leur livre par Internet, ou alors téléphoner à la bibliothécaire qui leur donne des conseils, et on peut récupérer les livres, mais sans rentrer dans la bibliothèque, en passant par la salle des arts qui est à côté. Voilà.
En drive,
oui.
Alors nous, au niveau de l'atelier d'écriture, on n'a jamais vraiment... Bon, alors bien sûr qu'on était confinés, mais on a fait un atelier d'écriture sur le confinement, par Internet. Donc les gens pouvaient écrire des petits textes, ou plus ou moins longs, et puis les envoyer sur un lien qui s'appelle le journal du confinement et du déconfinement. Donc à peu près un thème par semaine, mais on a commencé un petit peu tard. Et donc tous ces textes ont été recueillis, et voilà, maintenant on ne sait pas ce qu'on va en faire. Enfin, si on va... Mais bon, il sera sur Internet.
Vous êtes tous les deux engagés dans des associations culturelles. Pour vous, la culture a quelle place dans votre vie et comment vous en êtes venu à vous engager, pour quelles raisons?
Alors, moi, c'est depuis tout le temps, puisque je suis originaire de Saint-Laurent. Et quand on était adolescent, on a monté un journal qui s'appelait Les coulisses laurentinoises, avec des copains et des copines de Saint-Laurent. Donc, on faisait un journal, ça a duré, si je me rappelle bien, deux ou trois ans. On organisait des goûters pour les anciens, enfin, on a fait plein de trucs. Et du coup, ça a toujours été, la culture, c'est un moyen, étant dans l'éducation, en tant qu'enseignante, c'est aussi un moyen d'ouvrir les enfants et les adultes à autre chose. Et sans éducation et sans culture, eh bien, une société ne peut pas survivre. C'est peut-être un grand mot, mais voilà, on a besoin de l'éducation et de la culture, c'est vital. Du coup, on a beaucoup milité tous les deux à Saison Nomade, qui a duré 5 ou 6 ans, hein, à peu près.
Ouais.
Et donc, qui offrait la possibilité de spectacle sur la communauté de communes qui était à l'époque Chartreuse-Guier, donc qui était plus petite. Et la politique était surtout d'avoir une politique tarifaire, c'est-à-dire les gens choisissaient de payer entre 5, 8, 10 et 12 euros le spectacle. Donc des spectacles de qualité qu'on allait voir et qui permettaient aussi à des gens d'avoir une culture de qualité à proximité avec des tarifs préférentiels, ce qui est pas toujours le cas, quoi. Quand on va à la MC2 ou au Grand Angle, c'est sûr que ça a un certain coût, et voilà. Et du coup, cette action n'a pas perduré parce qu'on n'a pas trouvé le financement de la coordinatrice pour pouvoir continuer l'action. Mais on a bien beaucoup travaillé dans ce sens-là, quoi, beaucoup œuvré. Puis je me pose même pas la question, quoi. Je veux dire, ça fait partie de notre vie. La culture, l'éducation, c'est sans ça, on n'est rien, quoi. Je veux dire, et donc voilà, c'est vital. Bon, alors moi, j'ai deux ouvrages. Il y en a un qui est très ancien, mais c'était une espèce de passion. C'est un tout petit livre qui s'appelle « Les demeurés » de Jeanne Benhammer. Et c'est l'histoire d'une mère et d'une fille. Donc la mère, c'est un peu l'idiote du village, donc elles vivent dans la forêt. Et la petite fille, elle vit avec sa maman. Et puis un jour, il y a l'institutrice qui veut arracher l'enfant à l'ignorance, car le savoir est obligatoire. Mais voilà, ça engendre plein de choses. C'est-à-dire que d'avoir le savoir, eh bien, ça met une distanciation, des différences avec la maman qui reconnaît plus son enfant. Enfin, c'est très, c'est un tout petit livre, hein, mais vraiment, il est d'une force. D'ailleurs, la remarque, c'est l'art de l'épure, quintessence d'émotion. Tel est le secret des demeurés. Jeanne Benhammer, en dentelière, pose les mots avec une infinie pudeur et ceux-ci viennent se nouer dans la gorge. Et puis le dernier en date, parce que je viens juste de commencer à le lire, une quarantaine de pages. Donc c'est un bouquin que j'ai découvert au cours de l'émission La Grande Librairie, donc à la télévision. Et c'est un bouquin sur les arbres. Il faut dire que j'ai un peu une passion, c'est peut-être exagéré, mais un amour des arbres. Donc je fais des photos, je fais plein de trucs. Et tout ce qui parle des arbres. Donc là, je sais plus comment il s'appelle, le présentateur de l'émission. Enfin bon, il a interrogé l'auteur, donc Richard Powers, directement en Californie, parce que c'est un auteur américain. Et donc par rapport à son bouquin. Alors ce bouquin, il parle de. Je vais vous lire ce qui est marqué, c'est plus facile. Au fil d'un récit aux dimensions symphoniques, Richard Powers explore ici le drame écologique et notre égarement dans le monde virtuel. Son écriture généreuse nous rappelle que, hors de la nature, notre culture n'est que ruine de l'âme. Donc voilà, c'est se rapprocher des arbres, de la nature, comprendre les arbres. De plus en plus, il y a des livres qui expriment la communication entre les arbres par rapport à leurs racines, par rapport à... Voilà, les arbres sont vivants et c'est presque des êtres humains, quoi. Il leur manque le langage. Donc voilà, ce livre, je suis qu'au début, mais voilà, c'est l'histoire de cette forêt, c'est l'histoire en lien aussi avec la culture. Donc,
Est-ce que c'est facile à lire ?
Oui.
Parce qu'il est gros quand même.
Ah, il est un peu gros, mais non, mais enfin bon, j'ai pas eu trop de...
C'est écrit gros.
Il a plus de 700 pages, 740, mais bon, il se lit bien, enfin pour le moment, moi j'ai pas eu de... Voilà quoi.
D'accord. Donc faut pas prendre peur.
Non. Faut se laisser entraîner, rentrer dedans. Et puis après, c'est toujours difficile un petit peu. Les livres, souvent, ils accrochent pas toujours dès le départ. Mais il faut un petit peu s'entêter et puis se dire bon allez, je continue. Et puis à un moment, on embarque et puis on ne lâche plus quoi.
Écoutez, merci beaucoup.
Merci à vous.
De rien.
C'est déjà la fin de cette émission spéciale des Convives du Neuf. Merci à Aurore, Vincent et Alexia qui sont venus nous parler de l'ADEC. Merci à Lucas pour la technique et à Élise pour la préparation de cette émission. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si ce n'est pas le cas, c'est pareil. Donc un numéro, le 06 45 00 36 45. Un contact mail, contact@radio-couleur-chartreuse.org. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission dès ce soir ou à 18h. En podcast demain matin. Voilà, continuez à vous protéger, restez positifs et belle fin de journée à tous. À demain jeudi.